Écoutons, mettez-nous tout de suite à l'écoute de la parole de Dieu qui est une invitation. Je connais les projets que j'ai formés sur nous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Présentons-nous ensemble devant le Seigneur notre Dieu avec le premier chant du livret inséré au début du psautier. Nous louons le Seigneur. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je dirai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux racontent tes merveilles et l'assemblée des croyants raconte ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui vient de toi. Heureux le peuple qui saura te louer. Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Nous entonnons le psaume 33, les trois strophes, dans le psautier. Réveille-toi, peuple fidèle. Je vous invite à vous asseoir. Et nous nous mettons à l'écoute des attentes du Seigneur. Toi qui veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, écoute bien ces paroles. Elles ont été prononcées par Jésus dans le Sermon sur la montagne. Vous qui êtes le sel de la terre, si le sel perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Devant ces exigences radicales, nous ne pouvons que constater nos manquements, mais nous pouvons les dire au Seigneur. Nous avons souvent entendu ta parole, mais nous ne l'avons pas vraiment écoutée. Nous avons beaucoup parlé de la liberté, et nous l'avons peu vécue. Nous avons appelé les autres à la paix, mais nous n'avons pas beaucoup agi en sa faveur. Oui, c'est là notre ambiguïté, c'est là notre contradiction foncière. Pour n'avoir pas écouté ta parole, pour n'avoir pas vécu en homme libre, pour n'avoir pas agi en ouvrier de paix, Seigneur, pardonne. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, que ton pardon nous reconstruise. Amen.
Thank you.
Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Et mon alliance de paix ne sera même pas diminuée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté sa miséricorde. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Par ses paroles, frères et sœurs, Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Chantons-lui notre reconnaissance. Confessons notre confiance dans le Seigneur. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse, sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit-Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'indifférence et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Tout d'abord, nous allons lire, j'ai choisi les textes du jour, nous allons lire le texte du jour qui nous est proposé dans le livre des Deutéronomes, donc dans le premier testament, au chapitre 30, du verset 8 au verset 16. « Alors toi, tu écouteras de nouveau la voix du Seigneur, tu mettras en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu te donnera le bonheur dans toutes tes actions, en faisant surabonder le fruit de ton sein, de tes bêtes, de ton sol. Car le Seigneur se plaira de nouveau à ton bonheur, comme il l'a fait pour tes pères, puisque tu écouteras la voix du Seigneur ton Dieu, en gardant ses commandements et ses lois, écrits dans ce livre de la loi, et que tu seras revenu au Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et de tout ton être. Oui, ce commandement que je te donne aujourd'hui, il n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors d'atteinte. Il n'est pas au ciel. Sinon, on dirait, qui va pour nous monter au ciel, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? Il n'est pas non plus au-delà des mers, car on dirait alors, qui va pour nous passer outre-mer, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? Oui, la parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Et moi aujourd'hui, je te commande d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors, tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Alors, je vous invite à chanter le cantique 254. Ô Seigneur, ta voix m'appelle, les strophes 1, 2 et 4. Nous nous levons. Je vous invite à vous asseoir. Et avant de lire le texte que nous allons méditer, nous nous remettons à l'Esprit de Dieu. Père, envoie sur nous ton Esprit. celui que tu as envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles la vue. Par lui, viens toi-même ouvrir nos yeux, alors nous verrons ton amour. Par lui, viens toi-même briser nos chaînes et nous irons libérés de nos préjugés pour partager ta bonne nouvelle. Voici le texte du jour. Il est extrait de l'évangile de Luc au chapitre 10 à partir du verset 25. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit ? Et comment lis-tu ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. » Un prêtre, par hasard, descendait le même chemin. Il vit l'homme et il passa à bonne distance. Un lévite aussi passa par ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ?» Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va. » Et toi aussi, fais de même. Alors ce texte que tout le monde connaît bien et qui est resté un petit peu en dépôt dans notre mémoire, peut-être que ça vient aussi du caté, ce texte qu'on connaît tellement, qu'il en est usé et qu'on a peine à l'écouter parce qu'on sait déjà ce qu'il va suivre, eh bien ce texte, il fait trembler presque tous les prédicateurs. Parce que se faire prescripteur de bonnes pratiques en matière d'amour du prochain et asséner une gentille leçon de morale, c'est vite arrivé avec cette histoire édifiante. Alors il faut, c'est très difficile, hein, il faut se tenir sur une ligne de crête sans verser dans les bons sentiments, en préconisant par exemple de voler au secours de tous les accidentés de la vie, ça non, il ne faut pas. Mais il ne faut pas non plus glisser sur la pente du jugement, d'un jugement facile qui opposerait aux terribles religieux, indifférents et égoïstes, le bon samaritain, qui, cela dit en passant, n'est pas du tout appelé bon dans l'évangile de Luc. Le seul moyen de rendre justice au sens de ce texte, qui pour nous est autre chose qu'une leçon de morale et quelque chose qui fatigue déjà notre intelligence parce qu'on croit déjà savoir, eh bien la seule façon en fait de s'en sortir, eh bien c'est de nous identifier au légiste. Alors évidemment, j'imagine qu'on peut avoir des réserves à le faire parce que ce légiste, il n'est pas tout à fait sympathique, hein, il cherche à piéger Jésus. C'est un grand spécialiste des subtilités de la loi et de ses applications concrètes dans la vie quotidienne. Donc c'est un personnage dont on peut se méfier quand même. Hein. C'est le type même du savant qui se tient en embuscade parce qu'il a réponse à tout et il a toujours deux coups d'avance. Il possède cet art rhétorique qui devance les objections de l'interlocuteur et qui domine la discussion par son esprit de répartie. Il est redoutable. Voyez comme il est habile. Il pose une fausse question à Jésus car il a déjà en tête la bonne réponse. C'est comme si Jésus était mis en examen. Est-ce que Jésus, qui est un maître aussi de la loi, est-ce qu'il est un bon maître qui se conforme à la loi de Dieu ? Et on imagine que le légiste cherche à débusquer le laxisme de Jésus avec cette question « Qui est mon prochain ?» Et il se demande si Jésus ne va pas intégrer au prochain celui ou ceux qui sont déjà hors la loi. Mais vous voyez que Jésus désamorce le piège assez vite. Et surtout, il faut insister sur cette tonalité. Il ne rabroue pas son interlocuteur. Il ne le juge pas, comme il ne jugera aucun des protagonistes de l'histoire qu'il va raconter. Mais il lui renvoie sa question et il l'accompagne patiemment sur le chemin d'un retournement. Alors ce retournement, c'est aussi, et j'espère, aussi le nôtre, celui qui nous est proposé au travers justement de cette petite histoire, qui n'est pas tout à fait une parabole, c'est une histoire. Alors pour répondre à cette question embarrassante, qui est mon prochain ? Jésus fait le détour par une étude de cas. Alors ça, on connaît dans l'enseignement les études de cas, on ne fait que ça. C'est très pédagogique, parce que justement, l'interlocuteur, il est mis en situation d'acteur. Alors il ne tombe pas dans le piège de la réponse générale, justement, où le prochain serait prévu, le prochain serait quelqu'un de repérable, d'avance trié, choisi parmi une collection d'individus. Mais il évite aussi l'idéalisme naïf et qui dit, voilà, on aime tout le monde, hein, on ne fait pas de distinction. Et il nous épargne la leçon sur les valeurs humanitaires ou les injonctions doucereuses comme « il suffit de s'aimer »,« il faut aimer tous les hommes sans distinction ». Ça, on ne peut plus. On sait d'expérience que ces injonctions n'ont jamais arrangé les relations humaines. Même parfois les ont aggravés. Jésus va plutôt présenter un cas précis, un cas étroit, d'où on ne pourra pas s'échapper par des envolées philanthropiques. Tout d'abord, l'histoire se déroule sur une route normalement très peu fréquentée, bon, parce qu'elle est assez mal famée. C'est quand même une vingtaine de kilomètres entre Jérusalem et Jéricho, et pour ceux qui sont déplacés en Israël, C'est une route pentue.
Elle est, d'un seul coup, cette route qui est assez peu fréquentée devient peuplée de personnages. Alors le hasard fait bien les choses, ou peut-être qu'il fait mal les choses. Parce qu'il va rapprocher dans cette histoire, le hasard, un certain nombre de personnes qui n'ont pas à se rencontrer dans la vie normale, ou qui ne veulent surtout pas se rencontrer dans la vie normale. Alors ces personnes, elles forment trois groupes, pour simplifier. La victime, sans identité précise, on ne sait pas si elle est juive, elle est quand même mal tombée, puisqu'elle est dépouillée par des brigands et qu'elle est tenue pour demi-morte. Elle représente le hasard sur lequel on tombe et qui aussi nous tombe dessus, ce qu'on peut appeler le malheur impondérable et révoltant de la vie. Et puis, il y a le prêtre et les lévites. Ce sont des professionnels de la loi de Dieu. Ils sont affectés au service du temple de Jérusalem. Et là, le texte ne les juge pas. C'est nous qui les jugeons en lisant le texte. Ils sont coincés, ces hommes. Ces deux hommes sont coincés par leurs obligations religieuses. Ils sont contraints de fuir la victime qui semble morte et sans doute sanguinolente, parce que s'ils entraient en contact avec elle, eh bien c'est la profanation assurée du temple de Jérusalem. Et justement, ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils assurent le service du temple. Et puis le troisième personnage, un Samaritain en voyage qui passe aussi par là, tiens, comme par hasard. Pour les Juifs, il représente le pire ennemi, le Samaritain. Juifs et Samaritains se méprisent réciproquement. Au mieux, ils s'ignorent et au pire, ils s'invectivent. Chacun défend son lieu de culte, Jérusalem pour les Juifs et le mont Garizim pour les Samaritains. Alors pour les Juifs en plus, les Samaritains sont des déviants et ils ont une ascendance un peu douteuse puisque leur région a été colonisée et occupée par des Babyloniens autrefois et qu'on ne sait pas trop, les mélanges ne sont pas très bons. Et pourtant, ils sont cousins. Ils respectent les mêmes textes de la Torah, les mêmes lois. Ils ont presque les mêmes fêtes. Et ils se réclament des mêmes patriarches. Alors Jésus va faire jouer le hasard dans cette histoire pour mettre au travers de la route de ces personnes la question du légiste. Au lieu d'être une question théorique qui flotte, l'amour du prochain, ça devient une étude de cas. Et vous voyez que le prochain n'est pas seulement l'accidenté qui vient se mettre au travers de la route des obligations bien réglées, qui sont les obligations connues d'avance. Le prochain, dans cette histoire, c'est aussi l'ennemi le plus proche, le faux frère, le Samaritain, celui qui est bien trop proche pour qu'on puisse l'accepter. On le sait, il est beaucoup plus facile d'aimer un lointain qui diffère en tout de nous, qui a des conceptions éloignées des nôtres, qui a des pratiques un peu exotiques, qui nous fascine. C'est beaucoup plus facile d'aimer un lointain. L'indifférence ou la curiosité peut même éviter des confrontations. Et puis, on peut s'en tirer à bon compte en l'aimant de loin, par pétition de principe. Quant à ceux qui nous ressemblent, alors là, c'est autre chose. Ceux qui ont des liens de parenté étroits avec nous, mais qui ne sont pas comme on voudrait, comme il faudrait, c'est très difficile de les supporter. Il suffit d'observer d'ailleurs dans ces échantillons petits, étroits, qu'est le protestantisme, en tout cas en France, on voit bien qu'il est traversé de courants très divers qui se réclament des mêmes pères, en quelque sorte, et qui se jugent mutuellement à gros traits, à coups de caricature. Ils s'entendent d'ailleurs souvent bien mieux avec d'autres confessions chrétiennes et même d'autres religions qu'avec d'autres coreligionnaires protestants. Alors vous voyez, ce prochain-là est si proche qu'on ne voit plus que ces détails qui ne nous vont pas et qui brouillent, on pourrait dire, un peu la pureté ou l'eau claire de notre légitimité et de notre réputation. Or, dans l'histoire de Jésus, le hasard est un plaisantin qui rassemble ceux qui ne veulent surtout pas se choisir mutuellement. Ce hasard propose le prochain comme un accident qui dérange, qui coupe la trajectoire la plus efficace de nos obligations et qui barre la route de nos pensées les plus sereines. Alors, on est désemparé, car il faut choisir de ne pas choisir ce prochain qui nous tombe dessus. Et très vite, parce qu'il y a quand même un risque de mort d'homme dans cette histoire. Alors, le prochain, c'est celui qui s'impose à nous, tout comme le fait le réel. Le réel s'impose à nous, on ne peut pas changer. Et le prochain, c'est même celui qui nous choisit. Tout comme Dieu sait le faire avec nous. C'est lui qui nous a choisis. Le prochain, c'est celui qu'on ne peut pas envisager par avance. Il est là, c'est un accident. Même si on est bardé de valeurs humanistes, ce sera toujours un accident et pas forcément accidenté, comme ici. Et même si on est amoureux des lois de Dieu, si on est rompu au raisonnement éthique, même si on est convaincu par l'indispensable règle d'or depuis Kant, il n'est pas garanti qu'on aime ce prochain. Car l'amour a besoin de hasard. L'amour se présente toujours sous une forme inattendue. Il ne tient pas dans les codes. Il déborde toujours des cadres juridiques. Ce que dit Jésus dans cette histoire, c'est que la loi que respecte le Lévite et que respecte le prêtre, eh bien la loi ici, dans ce cas particulier, ne peut pas faire sa loi toute seule. Dans ce cas précis, ce n'est pas possible parce qu'elle est déjà dépassée par toutes les possibilités et toutes les astuces du hasard. Alors justement, reprenons route avec le hasard vers Jéricho. Le Samaritain est pris de compassion. Littéralement, on dit il est pris aux entrailles. Ce n'est pas sa tête, il n'a pas raisonné. D'abord, il n'a pas le temps. Ce n'est pas de la sentimentalité non plus. Ce qui le meut, c'est une capacité à mettre l'autre en priorité, à modifier son propre parcours, à perdre du temps, à retarder ses projets, pour ne plus voir que l'intérêt de l'autre. Le Samaritain connaît tout aussi bien que le prêtre et le Lévite les règles de pureté, mais elles ne tiennent pas, il les oublie. L'urgence d'une vie à préserver passe bien avant la règle, puisque, quand même, on le sait, la loi, elle est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Alors il lui apporte les premiers soins par des gestes élémentaires. Il l'amène à l'auberge et on voit qu'il n'y a rien d'ambigu dans son attitude. Il se fait proche, il prend le temps d'être avec lui avant de le confier à l'aubergiste. Il établit une relation. Il donne même de l'argent pour le temps de son rétablissement. Et là, il n'instaure pas du tout une relation de dépendance. Il sait se retirer, il poursuit son chemin et il reprend ses affaires. Le blessé est libre. Il n'est pas l'obligé du Samaritain. Il n'est pas lié à lui par une dette de reconnaissance. Et les frais supplémentaires sont réglés à une date indéfinie. Donc il risque de ne jamais le recroiser. Il a su se détacher pour ne pas aliéner l'autre, mais aussi pour ne pas s'aliéner lui-même en se sentant indispensable. Il s'est peut-être même mis à l'abri d'une situation pénible si on prend en compte que parfois, et ça je pense que vous l'avez tous expérimenté, ceux que l'on a aidés, écoutés à un moment difficile de leur vie, s'empressent de vous oublier au mieux, ou même s'empressent de vous en vouloir d'avoir été témoin de leur faiblesse passée. Donc ce n'est pas si simple. La relation, c'est une relation qui est en miroir. Dans l'amour du prochain, n'est pas si simple que ça. Elle peut vite s'enfermer et s'empoisonner. Alors voici l'amour du prochain tel que le voit et tel que le vit Jésus. Alors pas de leçon de morale, d'accord, on n'en supporte plus, pas de jugement, mais une question pédagogique qui arrive au bon moment, alors que le légiste a déjà fait du chemin en s'identifiant aux différents personnages de l'histoire. Voilà où il en arrive, là, voilà où Jésus en arrive. C'est un renversement de point de vue. Et ce renversement de point de vue, il est saisissant. C'est-à-dire que, en fait, quand on demande aux gens de raconter l'histoire du Samaritain, qu'on dit le bon Samaritain, eh bien souvent ils ont oublié ce détail. Et en fait, c'est la raison pour laquelle ce Samaritain nous fatigue d'avance et se transforme en histoire morale. Non, ce renversement, c'est la clé qui donne toute sa saveur à cette histoire et qui nous libère. On s'attendait à entendre qui est le prochain de l'histoire. Et non, on entend qui s'est montré le prochain du blessé. Vous voyez que Jésus n'est pas en quête d'un objet de l'amour. Jésus est en quête du sujet de l'amour, de celui qui prend l'initiative et le risque d'aimer et de prendre le hasard, de prendre ce que le hasard lui apporte comme prochain. Le prochain n'est pas l'objet de ma compassion, ça n'est pas mon pauvre, l'éternel redevable dont le dénuement met en valeur ma compassion, celui qu'on peut facilement instrumentaliser dans une logique un peu narcissique. Non, par un renversement de perspective, c'est celui qui se fait proche, celui qui s'approche, celui qui me prête assistance, celui à qui je dois de pouvoir reprendre des forces et de la dignité. Dans certaines circonstances, avouez-le, il est tellement plus facile d'aimer ceux qu'on aide que ceux qui nous aident. Alors la réponse du légiste montre que sa position a changé. Il parle de bonté. Il est arrivé sur le terrain de l'intériorité, du cœur, là où la loi glaçante et prévoyante ne peut pas tout prévoir. Et à l'écoute de cette histoire, il est devenu le prochain du Samaritain tellement honni. Il est même devenu le prochain de Jésus qu'il cherchait pourtant à piéger. Quant au blessé secouru, il n'aura pas l'occasion de remercier le Samaritain, mais toute sa vie, il se souviendra de la sollicitude dont il a bénéficié. Et il ne soldera pas sa dette de reconnaissance avec le Samaritain, qu'il ne croisera sans doute plus, mais il soldera sa dette de reconnaissance avec d'autres, en étant à son tour le prochain des prochains sur la liste du hasard. Et on sait que le hasard, c'est aussi la signature anonyme de Dieu. Et nous, nous savons qu'en tête de cette liste des prochains, le suivant, celui qu'on ne peut pas calculer, celui qui va peut-être nous déranger et nous retarder dans nos projets, eh bien en tête de liste, celui qui est mon prochain, c'est Jésus, Jésus le Christ. Parce que lui, justement, il s'approche de moi. Il se fait mon prochain en m'aimant, sans jamais peser sur ma liberté et sans jamais me parler de dette. Alors vous voyez qu'avec cette histoire, qui n'est pas une histoire morale, nous sommes passés d'une économie fermée entre aidant, aider, pour arriver à une générosité, une aide, un amour qui ne calcule pas et qui s'ouvre sur le hasard. Amen. Nous nous levons pour chanter le cantique 258. Je vous invite à vous asseoir pour écouter les annonces concernant les activités ralenties de la paroisse, bien sûr, puisque nous sommes en juillet. Alors, vous le faites après. Donc, ce mercredi, 13 juillet, il y a toujours ce parcours biblique qui a pour thème « Appelé et mise en route ». Alors, il a commencé la semaine dernière, il a démarré à partir d'Abraham, et c'est un morceau tellement dense et tellement riche que, en fait, on va un peu modifier le programme, mais ce ne sera pas cette fois-ci sur Jérémie, mais on va rester dans Genèse. Voilà, parce qu'on n'a pas épuisé, enfin, on ne peut pas épuiser, mais en tout cas, ça a ouvert un appétit, et il faut que... On continue dans Genèse. Alors donc, il y a dimanche prochain le culte à 10h30, voilà, avec Aurélien Péter à l'orgue. Et puis, voilà, c'est une très belle illustration. Est-ce que tu leur donnes la parole ? Voilà, parce que les routiers des scouts seront dehors. Alors, soit vous êtes pressés. Et vous manquez de vous faire proche des routiers, parce que ils ont eux aussi, ils se font proches de personnes, de réfugiés. Alors, ils vont vous expliquer leur projet.
Alors, bonjour. Donc, on est les routiers de la paroisse. Et ça fait 2 ans qu'on prépare notre projet, là. On va partir en août. Donc, tout est déjà prêt. Il nous manque juste un peu de sous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on part en Grèce pour aider les réfugiés. Donc, on va être dans un... On va aller dans une école à Athènes. Et on va recevoir des enfants qui viennent d'un camp de réfugiés de Athènes. Donc voilà, ça fait. On a eu ce projet il y a 5 mois. Et donc on l'a préparé, on a pris les billets, tout ça, tout est prêt. On a pensé à des activités qu'on va leur faire. Et donc on est prêt, on part le 2 août. Et on revient le 25 août. Donc c'est un projet qui dure tout le mois d'août. Et donc voilà, on sera aux frais des migrants. Et donc là, on fait une sortie gâteau. On fait une sortie gâteau en fait parce que il nous manque un peu de sous pour pouvoir partir en toute tranquillité. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à la sortie. On se fera un plaisir de discuter avec vous, de vous présenter. Un peu plus en détail le projet si vous le désirez. En tout cas, on est là, on vous attend. Voilà. Merci à vous.
Merci. Et donc, vous n'oubliez pas que tout à l'heure, il y a le pot de l'amitié pour se faire aussi proches les uns des autres. Voilà, pour nous approcher les uns des autres. Et maintenant, c'est le temps de l'offrande. Nous commençons par ce service aussi du prochain, qui est discret, mais qui a son efficacité, l'intercession. Nous prions. Donne-nous, Seigneur, d'habiter la terre, de l'habiter avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons et tout ce que nous rêvons. Donne-nous, Seigneur, d'habiter la terre avec toute la tendresse dont tu nous rends capables, avec tout le courage qui peut nous habiter et toute l'espérance qui stimule le cœur. Donne-nous, Seigneur, d'habiter la terre avec un cœur ouvert à tous ceux qui ne sont pas comme nous, à tous ceux qui parfois sont trop comme nous, et à tous ceux qui parfois nous font peur. Donne-nous, Seigneur, d'habiter la terre avec nos limites, mais aussi avec nos coups de cœur, avec notre pauvreté et aussi tout ce qui fait notre richesse. Donne-nous, Seigneur, d'habiter la terre un peu comme toi, tu sais l'habiter, et de vivre avec cette intensité que tu places dans nos existences. Alors, puissant de ta puissance d'amour, nous pourrons transfigurer l'ordinaire et faire de toute vie une existence à la hauteur de ton espérance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, en prenant les paroles qu'il nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. La sollicitude, l'attention et la tendresse du Dieu notre Père est sur chacun de nous. C'est lui qui affermit l'ouvrage de nos mains. C'est lui qui intensifie notre quotidien. Et c'est lui qui nourrit notre faim. Allons dans sa lumière. Amen. Ceux qui sont pressés, bon dimanche.